Donc, comme je vous le disais, hier, on avait cette cérémonie d'adieu pour Elisabeth. Et le thème qui avait été choisi par ses enfants, donc Pascal et ses deux sœurs, c'était « L'exemple que nous a laissé maman ». Et puis, voilà, ça a été développé de plusieurs façons, par les témoignages des enfants, des petits-enfants. Et puis, le petit message que j'ai apporté était aussi là-dessus. Les morceaux choisis souvent parlaient de ça. Et après ce moment de cérémonie, il y avait une collation au Jora, pour ceux qui connaissent, la plupart connaissent, hein, la maison familiale des peintres Robert, donc depuis plusieurs générations, où Elisabeth a grandi enfant, où certaines de cette église se sont converties, le papa de Mathieu par exemple, il m'a dit ça hier, lors d'un camp qui se faisait autour de la maison, donc une maison chargée de souvenirs. Hein. Maintenant c'est un musée pour les peintres Robert. Et j'ai pu parler avec pas mal de monde directement après la cérémonie et pendant cette collation. Et il y a une chose qui m'a impressionné. J'ai toujours pensé qu'Elisabeth était une personne exceptionnelle, mais j'avais jamais réalisé à quel point. Et là, il y avait pas grand monde, on va dire hier. Sa vie avait impacté d'autres vies. Le nombre de gens qui étaient en larmes et je comprenais pas trop. Je disais bon, il la connaissait, mais sans plus. Puis je parlais avec eux, oui, mais quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, quand j'étais petit, alors que c'est quelqu'un que je connaissais quand même bien, je découvrais à quel point elle avait eu un impact, une influence, quelque chose de fort spirituellement dans la vie des gens. Et je trouvais ça magnifique. Même si quelqu'un m'a dit « Oh, mais toi, tu es orgueilleux !» J'ai dit, en plaisantant, hein, j'ai dit « J'aimerais à mon enterrement qu'on puisse dire ça de moi. » J'ai laissé quelque chose dans le cœur des autres. Hein. Et je crois que c'est ce qu'on voudrait tous. Et ça m'a ramené à ce sujet essentiel dans notre foi, mais qui est résumé dans une expression qu'on n'aime pas trop parce que peut-être on l'a mal comprise ou mal entendu utiliser, qui se trouve dans les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 19, lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, allez !» Et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, etc. C'est un commandement direct, simple de Jésus, et là, il ne parle pas juste aux 12, il ne parle pas juste à Pierre ou juste à... Hein, il parle aux croyants et à ceux qui croiront après eux. Donc c'est pour nous tous aujourd'hui. Et je crois que c'est un volet qu'on a peut-être trop oublié. J'insiste beaucoup, et c'est quelque chose qui est important, je crois, sur la vie intérieure, la spiritualité, notre relation avec Dieu. Et c'est le point de départ, je ne vais pas revenir là-dessus, bien sûr. Hein. Mais je pense qu'il y a ce deuxième aspect qui est indissociable du premier, de faire des disciples. Et si cet aspect-là n'est pas dans nos vies, il va nous manquer quelque chose et ça va déséquilibrer l'autre partie, qui est notre relation intime avec Dieu. Simplement, ce que j'aimerais ce matin avec vous, c'est réfléchir un petit peu et puis mettre des pistes et laisser ça aussi comme une réflexion pour cet été. Chacun, on va être un peu, justement, bon, peut-être un peu moins se voir, partir en vacances, certains, même si on ne peut pas partir trop à l'étranger, etc. Mais qu'on puisse réfléchir à ça et qu'on reprenne cette réflexion ensemble à la rentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'applique à ma vie? Et comment je pourrais le vivre? C'est quelque chose qui est toujours en cours, mais qu'on doit développer. Alors, juste pour rappeler, le mot chrétien, au début, c'était un sobriquet, c'était une insulte pour se moquer des chrétiens, et ça a apparu, pas tardivement, mais en tout cas pas dans les premières années de la vie de l'Église. Hein. Lorsque les premiers croyants à Jérusalem, donc au début, il y avait les disciples, hein, les disciples élargis, hein, c'était pas juste les 12, hein, il y avait d'autres personnes, il y avait des femmes aussi, etc. Et puis, il y a la première Pentecôte, et là, il y a quelques milliers de conversions. Donc ça, c'est le foyer initial de ce qui va contaminer le monde avec la bonne nouvelle. Et ces gens-là s'appelaient entre eux, et quand on parlait d'eux, on disait les disciples, sous-entendu les disciples du Christ. Parce que, alors c'est vrai que culturellement, à cette époque, hein, Il y avait des maîtres qui se promenaient partout avec des disciples. C'était quelque chose de beaucoup plus courant. Aujourd'hui, on dirait c'est une secte, c'est un truc bizarre, quoi, ce bonhomme qui se déplace avec des disciples autour. Hein. Culturellement, à l'époque, depuis les Grecs le faisaient aussi, hein, les philosophes qui se promenaient avec des disciples, etc. Donc c'est quelque chose qui était connu à cette époque-là. Mais on connaissait les gens qui étaient devenus ce qu'on appelait les chrétiens comme des disciples. Et ils avaient cet objectif, ben, témoigner de leur maître, vivre en tant que disciple de ce maître, et puis faire d'autres disciples. Alors, dans cette idée-là, la chose qui est essentielle, c'est la notion de transmission, transmettre. Pour nous, quand on parle de disciples, on pense, y a le chrétien de base, normal, celui qui vient le dimanche matin, qui se tait, qui met son argent dans la boîte et qui s'en va. Et puis, il y a les disciples, c'est un peu le haut du panier, quoi. Hein. Et puis, ils ont fait une école pour ça. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'écoles de formation chrétienne qui s'appellent école de disciples. C'est pas faux, hein. Mais c'est pas exactement la pensée biblique. Dieu a appelé tous ceux qui sont nés de nouveau à être ses disciples et à faire des disciples. Et donc, on est dans un lien de transmission. Tout ce qui est vivant sur Terre, dans le monde végétal, dans le monde animal et bien sûr les êtres humains, se reproduit. C'est une chose normale. Les fougères font leurs petits porcs, les animaux font leurs petits, les humains ont des enfants, etc., etc. Tout ce qui est vivant se reproduit. Et la vie de Dieu en nous, nous sommes ses enfants, nous sommes vivants, est appelée à se reproduire. Mais on sait que une des différences entre déjà entre le monde animal et le monde végétal, les végétaux s'occupent pas spécialement de leur progéniture. Voilà, ils se reproduisent, mais ça se passe ou ça se passe pas. Dans le monde animal, alors pas tous les animaux, mais beaucoup d'animaux quand même prennent soin de leurs enfants, de leurs petits, un certain temps. C'est en général beaucoup plus rapide que pour les humains. Nous sommes l'espèce la plus handicapée dans ce domaine. Hein. Il nous faut longtemps. Mais même si c'est quelques heures, quelques jours, quelques mois, les mères ou les pères, enfin en tout cas les parents des animaux, prennent soin de leurs petits. Ils leur apprennent ce qui est nécessaire pour continuer à vivre et à se reproduire. Et puis, bien sûr, nous le faisons dans le domaine naturel, nous avons des enfants, etc. Mais dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Et c'est quelque chose qui devrait être considéré comme naturel. Alors oui, on peut dire, sur un groupe de 100 personnes, il y en a deux qui sont pas mariés, qui ont pas d'enfants, dans le domaine naturel. Hein. Mais spirituellement, certains auront peut-être plus d'enfants que d'autres. Mais on est tous appelés à reproduire et à transmettre à notre façon, à notre niveau, dans ce que Dieu nous a donné, cette vie qu'on a reçue. Paul résume ça lorsqu'il écrit à Timothée. Donc Paul, c'est un disciple du Christ. Hein. Lui, il a été, même s'il n'a pas connu le Christ vivant, il a été directement interpellé par le Christ. Et puis, il a formé des disciples. Hein. Et d'ailleurs, il y a une différence entre Paul avait un don de ce qu'on appelle d'évangéliste, il était apôtre aussi, mais donc il annonçait la bonne nouvelle à des foules. Mais parallèlement à ça, il avait quelques disciples. Timothée en était un, c'était peut-être son préféré. Hein. C'est quelqu'un qui l'a pris, c'est même pas lui qui l'a amené à la foi, c'était un jeune croyant qui débutait dans la vie chrétienne. Il a pris avec lui et il en a fait un disciple. Et puis, il lui écrit ceci quelques années plus tard. 2 Timothée 2, verset 1. Vous connaissez ce verset, il est bien connu. Hein. « Toi, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres ou de le transmettre à d'autres. » Dans ce verset, on a l'ordre des choses. Hein. Premièrement, toi, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Si je ne suis pas uni au Christ, j'ai rien à transmettre. Et si je ne sais pas puiser ma force dans cette grâce-là, j'ai rien à donner. Hein. Peut-être que j'ai des connaissances sur la Bible et je peux être un enseignant de connaissances bibliques, et ça a son utilité. De la même façon que dans ma bibliothèque, j'ai des livres écrits par des érudits, je connais pas ces gens, je connais pas leur vie, tant pis, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Mais quand j'ai besoin de connaissances sur un sujet, je peux consulter ses livres. Hein. Et c'est utile. Mais la relation de disciple, alors chaque fois qu'on va parler de cette relation de disciple, elle est à double sens. Parce que être disciple, c'est être dans une chaîne de transmission. Ça veut dire que d'un côté, je reçois et de l'autre, je transmets. Et puis en plus, c'est une transmission qui a plusieurs niveaux. Hein. Parce que je reçois de Christ, c'est sûr. Je transmets peut-être à des gens qui sont plus jeunes dans la foi. Mais aussi, entre les disciples, il y a de la transmission sans que l'un soit au-dessus des autres. Hein. Et là, c'est le niveau de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et c'est ce que Paul explique quand il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Hein. » C'est qu'entre disciples du Christ, où on a notre connexion avec lui, on a chacun à apprendre des autres et à recevoir des autres, mais on a aussi cette responsabilité de transmettre plus loin pour la génération spirituelle d'après. C'est pas forcément lié à l'âge d'ailleurs. Hein. Quelqu'un de jeune dans l'âge peut être suffisamment mûr dans la foi pour avoir comme disciple spirituel quelqu'un qui a deux fois son âge mais qui débute dans la foi. Après, ça peut être aussi... Donc, c'est pas juste l'âge. Et Paul, après avoir dit... donc poser le point de départ, hein, fortifie-toi, puise tes forces dans la grâce qui nous a accordé dans l'union avec le Christ. L'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres qui seront capables de le transmettre à d'autres. Et en fait, pour apprendre quelque chose correctement, ou plutôt pour tester si on a appris quelque chose correctement, tout le monde le sait, je vois Jean-Jacques qui hoche la tête, c'est un sujet qui le passionne, c'est un spécialiste du domaine. Hein. Il faut savoir si on est capable de le réexpliquer à quelqu'un. Jean-Jacques m'avait envoyé justement la vidéo d'un monsieur qui était prof de maths, mais pas juste un petit prof de maths, il était directeur de la Sorbonne, c'est ça ? Je sais plus. D'une grande école quelque part. Ah, ok, moi je croyais que c'était à Paris. Tu vois un peu de... Ah ah, l'influence culturelle, peu importe. Ce monsieur était une sommité en mathématiques et il avait grandi à l'étranger, au Maghreb, je ne sais plus trop où. Et lorsqu'il est venu en France, il était enfant et sa maman aspirait à faire des études, mais dans le pays d'où elle venait, ce n'était pas possible. Alors, elle savait lire, écrire, etc., mais elle n'avait pas pu faire d'études supérieures. Et lui, il est arrivé en France avec sa maman qui prenait soin de lui. Et il a commencé l'école primaire. Et sa maman lui a dit, tu as une mission. Tout ce que tu vas apprendre à l'école, quand tu vas rentrer, je veux que tu me le donnes à moi à la maison. Et cet enfant a réussi de façon incroyable dans les études, et puis il est devenu enseignant. Et sa maman a pu passer le bac par la suite, etc., etc. Hein. Et après, lui, devenu enseignant et même responsable d'un centre de formation universitaire, il disait, mais en fait, ce que j'ai appris avec cette expérience-là, c'est que on apprend bien que si on sait qu'on est responsable de redonner à quelqu'un. Et je crois que la paresse spirituelle, ou c'est pas forcément de la paresse parce que on a été mal éduqué dans beaucoup d'églises où on nous a dit, voilà, vous devenez chrétien, il y a un spécialiste, c'est lui qui prêche le dimanche matin ou le jeudi soir, peu importe, vous venez, vous l'écoutez et vous mettez en pratique. C'est pas ce que la Bible dit. Pensez que à l'époque où l'évangile a commencé, Paul arrivait quelque part dans un endroit où il y avait aucune base culturelle, puisque c'était pas chez des juifs qu'il allait. Hein. Donc il allait dans un endroit que les juifs appelaient païen, où les gens avaient jamais entendu parler de la Bible, de l'Ancien Testament, d'Abraham, de David, rien. Il prêchait là, il restait un an ou deux, des fois trois ans, comme à Éphèse. Hein. Et quand il partait, il laissait des gens qui étaient capables de conduire l'église et d'enseigner d'autres. Trois ans. Et puis nous, ben, on passe des années, des années, des années, des années. Ça fait 30 ans qu'on est dans une église et on vient toujours écouter le même bonhomme qui parle et puis qui explique. Il n'y a que lui qui sait et puis nous, on écoute. Hein. Et il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans. C'est pas normal. Alors, qu'il y ait des gens qui soient plus doués pour enseigner, oui, Apollos a enseigné mieux que Paul, par exemple, qu'il y ait des dons, qu'il y ait des spécialistes, je renie surtout pas ça, l'histoire de l'Église nous le montre, on en a besoin, mais chaque enfant de Dieu devrait être dans ce processus de recevoir pour redonner. Mais ça change énormément. Parce que si ce matin, voilà, bon, on vient écouter un message, ben, c'est bien, on va écouter un message, voilà, ça sera intéressant ou pas, on va s'endormir ou pas, c'est pas dramatique. Parce que, ben, voilà. Mais si vous saviez que cet après-midi, demain matin, vous alliez devoir expliquer, partager, faire comprendre à quelqu'un qui sait rien ce que vous avez entendu ce matin, c'est différent. On participe autrement. On est là, ah oui, mais et puis au moins de l'expliquer, on s'appelle, ah oui, mais ça, j'ai pas bien compris, donc je dois aller chercher, je dois. Et en fait, vous allez refaire le travail que moi j'ai fait avant vous et que d'autres ont fait avant moi. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important et que peut-être à trop se concentrer sur nous et Dieu, mais c'est essentiel, c'est le point de départ. Surtout, faut pas enlever un pour mettre l'autre, hein, sinon on va de nouveau être sur un seul pied. Mais on devrait toujours se rappeler de cette réalité-là. Notre responsabilité, elle est double. De recevoir et de transmettre. De recevoir et de transmettre. D'apprendre et de partager. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous donne aucun moyen, aucune indication sur les moyens ou les méthodes. Elle dit pas pour faire des disciples, il faut faire 3 ans d'école, 2 ans, 4 ans, 5 ans, faire comme ci, faire comme ça. Débrouillez-vous. Hein. Parce que c'est une relation personnelle et on peut pas. S'il y avait une méthode ou deux méthodes ou 3 ou 10 qui avaient été données, ben ça fonctionnerait pas. Il n'y a pas de méthode. Mais en même temps, pendant des générations et des milliers d'années, il n'y a jamais eu de cours d'éducation sexuelle et les gens savaient faire des enfants, hein, puis savaient les élever. On sait transmettre et. Les forgerons savaient former d'autres forgerons, les écrivains savaient apprendre aux autres à écrire, etc., etc. La transmission, elle est d'une certaine façon innée dans l'être humain. On a cette capacité de transmettre. J'ai appris et je redonne. Hein. Encore une fois, il y a des gens qui sont très très forts là-dedans, c'est presque leur métier, et d'autres moins. Mais on a tous un minimum qu'on peut faire et qu'on doit faire. Et en même temps, Dieu a voulu ce système-là, parce que c'est pas un système, mais cette fonctionnement-là, parce qu'il était utile pour nous. Quand je redonne à quelqu'un, je reçois. Hein. J'assimile vraiment ce que j'ai déjà entendu. Ça peut paraître étrange, mais quand je suis parti missionnaire en Roumanie, une de mes questions, mais je n'osais pas la poser à personne parce que ça faisait bizarre, c'était « Ok, donc voilà, on va commencer une église, je vais être le responsable, je vais prêcher. » Puis moi, Internet n'existait pas encore. Hein. Je vais écouter qui ? Je vais recevoir d'où ? Alors oui, il y a des conférences, oui, il y a des livres, je lisais beaucoup. Hein, mais je me suis aperçu qu'en fait, d'avoir cette responsabilité de devoir étudier pour partager à d'autres, ça me nourrissait. C'était comme si quand on partage, on est là en train de parler et puis on est assis en train d'écouter. Et j'ai remarqué que j'étais souvent repris par ce que je disais. C'est étrange, mais c'est comme ça. Hein. Parce que 2 jours après, dans ma propre vie, tout d'un coup, je me disais, mais tu te rappelles ce qu'a dit le prédicateur dimanche ? Hein. C'était ouf, tu as dit ça aux gens et puis voilà, etc. Hein. Donc, on est dans ce lien-là. Et puis, c'est vraiment important. Alors, comment on fait pour transmettre ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règles, il n'y a pas un format tout prêt qui est dit. Mais il y a quelques éléments qu'on peut trouver dans la Bible. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. J'en ai sorti quelques-uns ce matin, puis ça sera intéressant justement d'en partager ensemble. Hein. Ben, il semble évident que pour transmettre derrière soi et faire des disciples, il faut nous-mêmes être dans un cheminement où on est un disciple du Christ. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, qu'on sait tout, qu'on sait beaucoup de choses, mais d'être dans cette attitude-là de « lui, il sait, et moi, je veux apprendre ». Il y a ce magnifique verset dans Ésaïe 50, verset 4, et Christ va reprendre ce verset en parlant de lui, hein, parce que lui-même écoutait son père. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, ou la langue des disciples, selon les traductions, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. » Pour qu'il y ait une langue de disciples, il faut qu'il y ait une oreille de disciples d'abord. si je ne sais pas écouter, j'ai rien à transmettre. Parce que dans cette transmission-là, c'est pas de nous qu'on transmet. C'est pas de nous qu'on parle. C'est de Christ, de son royaume, des valeurs du royaume de Dieu, de ce qu'il régit, de cette vie. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut commencer par vivre quelque chose avec Dieu. Si je vis pas quelque chose avec Dieu, si mon christianisme c'est juste je vais au culte, je chante à la chorale, je donne de l'argent, je fais le ménage, même je vais évangéliser, entre guillemets, donner des traités aux gens, leur parler que Christ existe, c'est bien, et c'est utile. Mais je dois, moi, être à l'écoute de Dieu, de sa parole, de ses pensées, de son esprit, avoir cette oreille du disciple pour après pouvoir, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes attitudes, transmettre cette chose-là. Donc ça, c'est le point de départ. Je dois, moi aussi, être dans ce processus. C'est un cheminement avec des hauts, des bas, des chutes et des rechutes. Mais je suis un disciple du Christ. C'est ce qui devrait définir nos vies. Je suis un disciple du Christ. Et puis, je suis aussi en train de transmettre plus loin. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que c'est une activité spirituelle, dans le sens le plus étymologique du mot. C'est-à-dire, c'est un travail que l'Esprit de Dieu fait dans nos cœurs et doit faire dans le cœur de l'autre personne. On est cet outil, ce canal, ce lien pour la transmission, mais si Dieu le fait pas, ça va pas se faire. Donc, on doit dépendre de lui pour ça. Et j'aime beaucoup cette phrase de Christian Bobin, ce poète que je cite souvent, qui dit « On ne peut apprendre que ce qu'on sait déjà. » Et en fait, quand on va partager à quelqu'un, si Dieu a pas déjà mis dans son cœur ces choses-là, mais il sait pas comment les formuler, c'est pas clair, on va pas arriver à le transmettre. Si je dois expliquer les couleurs à un aveugle de naissance, ben je peux pas, à moins qu'il ait une révélation surnaturelle de l'intérieur. C'est la même chose avec la vie de Dieu. Quand on essaie, et c'est pour ça que souvent c'est frustrant, on essaie de partager ce qu'on a vécu à quelqu'un, puis on a l'impression qu'on parle à un sourd, qu'on parle dans une langue étrangère, que même si la personne comprend les mots, ça comprend pas. Et c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi. Oui, je suis responsable d'être l'instrument de transmission, mais si Dieu le fait pas, et surtout si la personne de son côté est pas réceptive à ce que Dieu veut faire dans son cœur, ben ça se passe pas. Et ça, on n'y peut rien. Il faut pas être « Oh, je suis mauvais, j'y arrive pas ». Non, il y a un moment où les cœurs sont prêts parce que Dieu les a préparés de l'intérieur. Et là, ce que Dieu a préparé à l'intérieur est rejoint par ce qu'on va leur communiquer de l'extérieur. Et tout d'un coup, pouf! Et la même personne qui, on dit, ça fait des années qu'on dit ça, il comprend pas, puis tout d'un coup, il est en train de l'expliquer à tout le monde. Parce qu'il l'a compris. Parce que ça lui a été révélé dans son cœur, par l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir aussi. Et puis, ce principe de transmission, c'est une transmission de cœur à cœur. C'est pour ça que les écoles c'est super, les livres c'est utile, toutes ces choses-là c'est important. Mais être un disciple et faire un disciple, c'est une question de relation de cœur. Si j'ai pas un lien cœur à cœur avec quelqu'un, c'est pas un disciple. J'aime pas les idées faire des disciples parce qu'on dirait que c'est l'expression biblique, mais qu'on fait quelque chose. Mais je serai pas dans ce travail de transmission. Ou plutôt dans cette vie de transmission. Jésus, donc qui avait quand même des capacités hors du commun, on peut le dire, dans le sens premier degré, a pu former en 3 ans que 12 personnes. Jésus. Paul, il en avait 1 ou 2 avec lui. Donc moi, je suis pas Jésus et je suis pas Paul. Donc, on peut pas s'imaginer qu'on va être dans ce rôle-là avec 30 personnes, même pas avec 10, même pas avec 5, en même temps en tout cas, dans notre vie peut-être, voilà. Et c'est pour ça que le système où il y aurait un pasteur qui s'occuperait d'une église, même si elle est petite comme la nôtre, c'est pas possible. Je vois ces derniers temps, je suis souvent sous une pression que je me mets tout seul, c'est pas vous qui la mettez. Parce que je vais me coucher tous les soirs en me disant j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Et ça m'épuise. Mais parce qu'en fait, ce que je devrais faire, c'est être avec deux personnes et passer des heures avec eux, leur transmettre, vivre avec eux, partager avec eux. Et j'essaie de le faire. Mais je vois tous les autres et je me dis, et lui, et elle, et l'autre. Alors du coup, je passe d'un à l'autre et puis ça se fait pas aussi bien parce que, mais le but, c'est pas que moi je me multiplie et que je sois partout. Ça serait que si on pouvait vivre ce que dit la Bible, je puisse le transmettre à un ou deux, qui le transmettent à d'autres, qui le transmettent à d'autres, qui le transmettent à d'autres. Hein. Et l'Église serait plus ce truc où il y a un professionnel et des spectateurs, mais simplement des disciples qui sont aussi amis, qui sont amis du Christ, parce que Jésus appelle ses disciples mes amis. Hein. Il dit pas mes étudiants ni mes serviteurs. Il dit je vous appelle mes amis parce que je veux vous faire connaître ce que mon Père m'a fait connaître hein, par l'Esprit. Et d'ailleurs, il leur dit, vous pouvez pas le comprendre maintenant, vous le comprendrez après quand l'Esprit sera venu. Ce qui nous rappelle bien que même le Christ sur terre pouvait pas former ses disciples sans le travail de l'Esprit dans leur cœur. D'ailleurs, ils ont rien compris pendant le temps où il était là. Hein. Et après, ils arrêtent. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'est de ça qu'il parlait. Et puis 10 ans après, ils ont écrit les évangiles, hein, ou 20 ou 30. Parce que, jusque-là, c'était extérieur. Jésus parlait, enseignait. Puis il venait pour mourir pour nous, prendre notre place, régler le problème du péché, pour qu'on puisse recevoir sa vie et son esprit. Mais après la première Pentecôte, ça devenait possible. Et là, les apôtres passaient leur journée à enseigner dans le temple, et puis les gens dans les maisons, et puis tout le monde, voilà, ils transmettaient les uns aux autres. Hein. Donc la transmission, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire avec des foules, avec des masses. On peut prêcher à 1000 personnes ou 10 000 ou 100 000 si on a le micro qu'il faut, mais on ne peut pas être dans une relation de transmettre pour être un disciple, même pas avec 10, même pas avec 5 peut-être en même temps. Hein. 2, 3, 1, au moins 1. Peut-être 2, 3 si on ne fait que ça. Voilà. Et c'est quelque chose de cœur à cœur. Et hier, dans la cérémonie pour Élisabeth, en méditant là-dessus, j'ai repensé à ce texte que je veux relire ce matin. 2 Corinthiens 3, verset 2, c'est Paul qui écrit donc à des gens qu'il a connus, avec qui il a vécu un certain temps et qu'il a formé, pas tous, mais comme ses disciples. Hein. Et il leur dit ceci, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Vous êtes notre lettre, il leur dit, écrite, gravée dans vos cœurs. C'est ça, faire des disciples. Donc peut-être on doit changer l'expression si elle nous irrite un peu ou si on la comprend pas ou si elle nous plaît pas, mais c'est une relation de cœur à cœur. Et c'est ce qui m'a bouleversé hier en rentrant chez moi. J'étais fatigué, mais j'étais vraiment ému de voir tous ces gens qui avaient été touchés dans leur cœur par le cœur à cœur avec Élisabeth. Elle n'était pas prédicatrice, c'est son mari qui faisait ça. Hein. Elle n'était pas enseignante ou comme ça. Par contre, elle avait des relations avec les gens, avec l'un, avec l'un, avec l'un, avec l'un, et elle a laissé des choses, elle a écrit sur leur cœur. Et ces gens-là, aujourd'hui, beaucoup sont eux-mêmes en train de transmettre à d'autres. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, c'est quelque chose de cœur à cœur, c'est par l'Esprit de Dieu. Et le dernier élément que je voudrais partager, c'est pas exhaustif, hein, mais voilà, ça en est encore un, c'est le temps. Il n'y a pas de transmission possible sans temps. Et sans temps partagé, sans temps de qualité. Ça part du début, du temps avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Si je ne donne pas du temps à Dieu, ce n'est pas important que ce soit la nuit, le matin, le soir. Ça paraît souvent plus cohérent de le prendre le matin parce que ça va imprégner notre journée. Mais si votre rythme, c'est le soir, c'est au milieu. Mais du temps pour Dieu. Et puis, du temps avec les autres disciples, parce que tout seul, la braise s'éteint. Hein, et aucun a reçu de Christ tout. Et Paul parle du corps et il dit voilà, vous êtes les membres de Christ. Et si l'œil disait j'ai pas besoin de l'oreille et l'oreille du pied, on a tous besoin les uns des autres. Hein. On peut être doué dans quelque chose, mais on n'a pas moins besoin des autres. Je suis resté parmi vous, j'ai survécu assez bien parce que vous étiez là. Sinon, j'y arrive pas. C'est pas possible. Hein. Donc, du temps les uns avec les autres, du temps avec Dieu d'abord, et puis pour là où les personnes avec qui on a cette relation de transmission, du temps avec. Oui, Jésus a eu que 3 ans avec ses disciples, mais c'était 24 heures sur 24 pendant 3 ans. Essayez de transposer ça en 1 heure par semaine. Effectivement, ça fait une vie. Mais non, ils vivaient avec eux. Hein. Et ils apprenaient pas uniquement ou même pas essentiellement quand Jésus prêchait. Parce que nous, dans les évangiles, on a l'impression que Jésus passe son temps à prêcher. Hein. Oui, il a beaucoup enseigné. Mais prenez juste une carte et regardez ce qui se passe entre Jésus est là, le verset d'après, il est là. Entre les deux, il y a une semaine de marche. Minimum. Et Jésus n'avait pas d'hélicoptère, hein. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de voiture. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant une semaine, il marchait avec ces bonhommes-là. Marchait, ça discutait, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, il disait des bêtises, etc. Et au milieu de tout ça, il leur communiquait par sa façon d'être des tas de choses qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne savaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas l'esprit, mais qui étaient là, qui s'accumulaient. Et lorsque l'esprit est venu en eux, ils ont pu apprendre ce qu'ils savaient déjà. Ils ont réalisé, ah, c'est de ça qu'il parlait. Ah, mais c'est ça qu'il voulait dire. Ah, mais c'est de ça qu'il nous parlait, etc., etc., etc. Hein comme avec les pèlerins d'Emmaüs qui étaient là, qui n'ont rien compris, et puis il leur explique, et puis tout d'un coup, ah oui, d'abord ça brûle à l'intérieur, et après, dans la tête, on se dit, ah, mais bien sûr, c'est de ça qu'il parlait. Hein et c'est ce qui se passe. Ce texte sur ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs, hein, parce qu'on ne sait pas les prénoms de ses disciples, c'est exactement un cours d'apprentissage, de transmission. Pas en faire une règle et dire ça se passait toujours comme ça. Hein. Mais voilà, ils sont en chemin et Jésus ne leur donne pas un tract en disant « Demain, je fais une conférence, venez m'écouter, je vous expliquerai la résurrection. » Ils sont sur leur chemin, il les rejoint sur leur chemin, il marche avec eux. Ils se glissent dans la discussion. « De quoi vous parlez ? Ah, ouais. Ah, d'accord. Ah bon, non, je ne suis pas au courant. Ah, » Et puis finalement, voilà, il leur transmet quelque chose. Mais quelque chose de vivant qui fait que quand ils s'arrêtent après dans l'auberge le soir pour manger, ils se disent « Mais c'est quoi ce feu dans nos cœurs ? C'est ce débordement qui fait que, hein, qui a produit tellement d'énergie qu'après une journée de marche, parce qu'ils avaient peur ou ils ont quitté Jérusalem pour aller jusqu'à Emmaüs, ça fait 12 kilomètres, de nuit, ils s'en vont, ils repartent en courant dans l'autre sens. » Et ils vont trouver les autres disciples. Il est ressuscité, on l'a vu. Ben nous aussi, on le savait. Ben, et puis ils sont tout contents et puis ils se retrouvent. Et puis ils vont rester là et puis ils vont faire d'autres disciples derrière eux. Donc c'est quelque chose qui donne tellement de vie. Et puis ben, on perd ça et puis on se dit comment on pourrait motiver les chrétiens avec un nouveau programme, une nouvelle vision sur 5 ans, 10 ans, 15 ans avec taladi, dadadada, et puis un comité qui réfléchit. Non. Il faut juste vivre avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes aussi, hein, et puis voilà, et passer du temps ensemble. On est arrivé ce matin, aujourd'hui il n'y a pas de président, comme vous l'avez vu, il y avait pas, la tente n'était pas montée, on ne savait pas trop, dedans, dehors, il pleut. Mais est-ce que ça change quelque chose? Je ne dis pas qu'il faut être désorganisé, hein, on est dans un pays qui est organisé, on va essayer de l'être, mais ben voilà, on monte la tente, on s'assoit dessous, et puis... Mais, c'est pas ça l'essentiel. On pourrait arriver dans une salle qui était bien préparée, avec quelqu'un qui est à l'accueil, on s'assoit, on prend notre place, on repart, et on n'a rien vécu. Hein. Mais voilà, d'être là et puis de se dire, ben voilà, ce que j'ai compris ce matin, ce que j'ai vécu, cet éclat de vie, qui souvent va avoir rien à voir avec ce que le prédicateur a dit, parce que ce que la personne qui parle a dit a suscité en vous autre chose par l'esprit, qui n'est pas directement lié, mais ça c'est le travail de Dieu. Mais déjà, alors que je le reçois, se réjouir à la fois et se demander comment je vais le transmettre à Jules, machin, truc bidule, lui, l'autre. Hein. Mais si j'ai pas cette personne-là, bah, du coup, je mange que pour moi, j'ai déjà pas trop faim, aujourd'hui, j'ai pas besoin de manger. Non, là, je dois prendre de la nourriture pour aller l'amener à quelqu'un qui a pas à manger, ou pas assez, ou qui. Hein. C'est différent, je deviens responsable. Et c'est pour ça que dans le sens qu'utilise le petit prince ou Saint-Exupéry dans le petit prince, hein, on est pour toujours responsable de ce qu'on a apprivoisé. Hein, c'est le renard qui lui dit ça. Et puis là, le petit prince s'aperçoit qu'il est responsable de sa rose. Et puis il va vouloir retourner sur sa planète. Hein. C'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on n'aime pas trop les relations de proximité. Parce que si je vois les gens qu'une fois, deux par semaine, je sais rien de leur vie à part « bonjour, ça va ?»« Ouais, ça va, moi aussi, salut ta famille, au revoir hein !» J'ai pas de responsabilité. Mais quand on est dans une relation de cœur à cœur, alors pas avec tout le monde, c'est pas possible, avec une, deux, trois personnes, une en tout cas, on devient responsable. Et c'est une charge et une bénédiction. Mais voilà, on est responsable de ça. On n'est pas obligé, hein. Personne ne peut nous forcer, c'est à nous de le faire. Mais il y a quelque chose qui nous rend dépendants de Dieu dans ce principe-là. Hier soir, j'étais à l'église à 11h30 avec Pascal pour commencer de voir la famille, etc. Après, il y a eu la cérémonie, après, il y a eu la collation. Puis 18h, j'arrive dans ma voiture, puis je me dis, je suis lessivé, je vais rentrer à la maison, c'est bien. J'avais pas encore commencé à penser à ce matin, il fallait que je m'y mette. Hein. Et puis je vois mon téléphone, 3 appels en absence. Puis c'était un ami qui fréquente pas vraiment notre église, mais qui l'a fait un petit peu. Et puis, j'aimerais tellement te parler. Et puis j'étais là, oh non, pas ce soir, non là. Et puis il était pas libre après-demain. Puis après je m'en vais. Et puis je suis passé le voir. On a passé 2 heures ensemble. Mais ça m'a fait du bien. J'étais moins fatigué après. on peut pas faire ça pour 50 personnes. Mais voilà, on doit choisir un petit peu. Alors, je vous laisse un petit peu ce défi, cette réflexion pour l'été, sans du tout, surtout pas se dire, oh, je suis un mauvais chrétien, je fais pas de disciples. C'est pas quelque chose qui se mesure. Souvent, on le voit même pas vraiment. C'est pas. Je suis sûr que si Elisabeth avait été hier là, elle aurait pas aimé du tout, hein. Pourquoi vous parlez de moi comme ça? Non, c'est pas moi, j'ai pas fait ça, etc. Comme beaucoup ici que je connais qui doivent penser la même chose. Alors que vous avez un impact dans des vies, moi je le sais, je le vois, quoi. Hein. Donc, on n'est pas toujours conscient de la réalité là-dedans. Mais par contre, se mettre tranquillement devant Dieu et dire, ouais, j'aimerais que cette partie-là de la vie d'un croyant, d'un disciple, soit aussi dans ma vie. Oui, je m'occupe de moi, de ma vie intérieure, de recevoir de toi, mais j'ai besoin de relations avec les autres. Et puis, à qui je suis en train de transmettre? Et puis, si dans le moment présent, parce que ça arrive, hein, entre deux choses, j'ai personne, c'est pas le moment de lancer un programme, mais dire à Dieu, voilà, j'ai ce désir dans mon cœur, mets quelqu'un sur mon cœur et sur ma route. Je vous promets qu'il va le faire. Je dis pas comme ça dans le quart d'heure, hein, mais il va le faire. Peut-être que vous allez regretter de l'avoir prié après, parce que vous allez en devenir responsable d'une certaine façon. On n'est pas responsable de la vie des autres, comprenez bien, hein, mais responsable de cette relation-là. Et des fois, vous aurez envie d'aller vous coucher, le téléphone va sonner, vous allez vous relever et puis aller passer un moment avec la personne. Mais la bénédiction que vous allez en retirer va être incroyable. Pas parce que vous avez fait quelque chose de pénible et que Dieu vous a béni, hein. Simplement parce que quand on est ce canal qui permet à Dieu de transmettre par son esprit à quelqu'un d'autre, on est nous-mêmes vivifiés. Toute notre vie est stimulée. Hein. C'est toujours je fais du sport, j'ai faim, je mange bien, j'ai de l'énergie, pour faire du sport. C'est un circuit comme ça. Si je fais que du sport et je mange pas, je meurs. Si je mange et je fais pas de sport, je meurs aussi. on a besoin de recevoir, de donner, d'être dans cette chaîne de transmission. Alors voilà, je vous laisse cette pensée-là, puis je vais prier pour clore ce moment et puis on peut discuter un petit peu entre nous. Seigneur, merci parce que tu t'es pas contenté de nous envoyer des écrits ou des consignes, mais tu es venu vivre parmi nous. Et tu as pris quelques personnes, tu en as fait tes amis, tu as marché avec eux, tu as vécu avec eux, tu les as accompagnés, tu as partagé leur quotidien dans tous les détails. Les choses simples, les choses plus compliquées, les choses agréables, les choses difficiles. Et puis tu as fait de nous tes amis aussi. Nous avons cet incroyable privilège de te connaître, de pouvoir vivre cœur à cœur avec toi. Et nous te demandons que tu nous aides à équilibrer nos vies, à les structurer, pour que nous soyons à la fois des personnes qui savent recevoir de toi, recevoir de nos frères et sœurs, et puis aussi redonner autour de nous. Aide-nous à vivre cet équilibre, à grandir là-dedans, et que ce soit quelque chose que nous puissions vivre, bien sûr individuellement, mais aussi qui caractérise notre vie communautaire. Que nous puissions être des disciples en train de transmettre à d'autres, pour qu'eux aussi puissent le transmettre à d'autres. Merci parce que nous sommes tellement faibles que nous n'avons pas d'autre solution que nous attendre à toi pour pouvoir vivre ces choses-là. Alors viens le faire dans nos cœurs, viens placer les bonnes personnes sur nos routes, aide-nous dans chacun d'entre nous dans ce qui est compliqué pour nous, que ce soit la discipline, que ce soit la régularité, que ce soit la profondeur, le désir, tu nous connais chacun, et que nous puissions avec toi avancer plus loin sur ce chemin, en sachant que c'est toi qui as pris notre main et qui marche avec nous. Amen.